הפסוק די, כי שמוע עשיו את דברי אביו. Lorsqu'Esav a entendu les paroles de son père, Vaitzak Tseaka Gdola Umara Admeod. Il a crié, Esav, un cri, un énorme cri, et l'expression d'une grande amertume, Admeod, jusqu'à Meod. Le Gaon enseigne que quand dans la Torah, je te remercie, quand dans la Torah on parle de Meod, ça veut dire énormément. Bon, entre parenthèses, le mot Meod, il est écrit avec les mêmes lettres que le mot Adam. Alors bon, on va pas parler de ça maintenant, mais il faut y réfléchir. Mais donc le cri est énorme et il est d'une très grande amertume. Ça veut dire ce cri est un cri de quelqu'un qui souffre énormément. On peut se demander si Esav souffre parce que son plan qui était de tromper son père, ce qu'il a essayé tout le temps de Il le trompait, il se faisait passer pour ce qu'il n'était pas. Est-ce que, il souffre énormément parce que son plan a raté? Ou est-ce que vraiment, il s'agit de comprendre que Esav, quoi qu'il en soit, il sait très bien qui est son père? Il sait que son père est un très grand bonhomme et il ne veut pas perdre, il veut pas du tout perdre le bénéfice d'une bracha de son père. Donc comment on enlève ça, j'en sais rien. Non mais c'est vrai, je sais. Comme je sais tout le monde. Ouais. Pardon? Oh, hein? Ah, voilà, c'est fait, merci. Et voilà, et Yankel. Bonsoir, Yankel.
Il n'est pas encore là.
Ah, il n'apparaît pas. Ah, voilà. Bonsoir, Yankel. Et c'est énorme, le cri est énorme. Alors, Hanina dit quelque chose de fondamental. Il dit qu'on arrache les entrailles de quiconque croit que HaKadosh Baruch Hu renonce à punir l'injustice. Qu'est-ce que ça fait ici? Il y a l'air de voir ici une forme d'injustice. Hachem est patient, il note tout, il n'omet rien. Yaakov fit hurler Esav une fois. Et donc, avoir fait hurler Esav, quelque part, Yaakov n'en avait pas le droit. Et s'il l'a fait, ce serait une injustice que Yaakov ne paie pas pour cela. Alors il va payer. Et le Midrash nous dit, quand est-ce que Yaakov va payer pour avoir fait souffrir Esav? Alors on nous dit, voilà, à Shushan, on est à l'époque de Pourim, et il s'agit de Mordechai. C'est Mordechai qui, quand il entend le décret de la première solution finale, la première Shoah, si vous voulez. J'aime pas tellement le mot, mais bon, comme tout le monde utilise, Mordechai il a une information qui lui dit qu'il y a un projet et que ce projet est déjà mis en œuvre. C'est-à-dire, on va envoyer des lettres à tous les goïms de la Perse en leur disant que le 13 Adar, ils vont pouvoir tranquillement massacrer hommes, femmes et enfants, tous les juifs du royaume. Quand Mordechai reçoit cette information, il pousse un cri de douleur gigantesque. C'est marqué aussi sur Mordechai. C'est marqué Vaïzak, Zeaka, Gdola, Umara. Pas marqué Admeod dans Megillat Esther au sujet de Mordechai, mais Zeaka, Gdola, Umara. Aussi, c'est ce grand et amer cri. Avec, ça, c'est le paiement par Yaakov, son descendant, de ce qui a été fait à Essav. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que avec cette comparaison, puisque la punition, le paiement, comme on dit, il est exactement à la hauteur du dommage causé. De la souffrance causée. Ça veut dire que si on veut imaginer, si on veut essayer de se représenter la souffrance d'Ésav, alors il faut s'imaginer la souffrance de Mordechai. Imaginez que quelqu'un ait su en 33, en 1933, quelqu'un ait su tout ce qui allait se passer. Il sait exactement tout ce qui va se passer. Qu'il y a une solution finale qui est concoctée ici, qui va tuer tous les juifs du royaume, c'était la quasi-totalité des juifs. Les juifs sont à ce moment-là, ils sont dans la grande majorité et la presque totalité est en Perse, ils sont en Galout, c'est le deuxième Galout. Galout Babel, le deuxième Galout, c'est Galout de Perse. Il y a les Mèdes et les Perses. Donc, il faut imaginer, c'est presque pas pensable. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir cette dimension aussi que Ésav, finalement, il comprend que c'est pas lui. On détruit aussi toute la possibilité de jouer le rôle d'être le continuateur de son père. Parce que quand Mordechai apprend solution finale, ça veut dire que le peuple juif ne va pas faire le travail de l'humanité, il ne va pas réussir à faire reconnaître Hachem comme le roi dans le monde entier. Ça ne va pas se faire. Et donc, ça veut dire que ça lui tient aussi à cœur, à Essav. Ce n'est pas simplement que. C'est que tout s'effondre en réalité. Alors, l'idée, c'est quoi cette image qu'on arrache les entrailles de quiconque croit que Hachem va laisser subsister l'injustice. Ça veut dire, si Hachem laisse passer, alors comme disent Chazal, alors tes intestins aussi vont laisser passer. Ton système digestif, il va laisser passer. C'est-à-dire, ce que tu vas consommer va immédiatement sortir. Tes entrailles, ton système ne jouera pas son rôle. Donc, de la même manière que c'est impossible de penser ça, Il est aussi impossible de penser qu'Hachem va laisser passer une injustice sans veiller à ce que cette injustice soit réparée en quelque sorte, qu'on paye pour cette injustice. Et alors Yaakov lui dit, Ba achicha bemirma. Ton frère est venu par la ruse. Mirma, c'est la ruse, c'est effectivement la ruse. Alors Rabbi Yochanan commente et il dit, il est venu par la ruse, il est venu par l'intelligence acquise à l'étude. Donc, Rabbi Yochanan, il parle d'intelligence quand on parle de la ruse. Bon, mais ça, c'est classique, c'est la métisse des Grecs. C'est-à-dire, la ruse, c'est l'utilisation de la chokhma, de la sagesse, contre quelqu'un qui n'a pas ce degré de sagesse. C'est ça, la ruse. Tu es plus intelligent que l'autre, et donc tu vas utiliser cette chokhma que toi tu as et qu'il n'a pas pour le tromper. Cette phrase, elle est un peu étrange. Et là, et le commentaire est encore un peu plus étrange. Yaakov, c'est pas Yaakov qui a concocté cette idée. Yaakov, il n'a fait que faire ce que sa mère lui a ordonné de faire. Pourquoi dire que c'est la ruse que Yaakov a pu mettre en œuvre? Il n'a rien pensé de tout, du tout, Yaakov. Et à la limite, on peut même dire que il a complètement raté. Parce que comme vous vous souvenez de ce qu'on avait vu, que quand son père lui demande, mais comment se fait-il que tu reviennes si vite? Comment se fait-il que tu aies trouvé si rapidement ce gibier que je t'ai demandé? Et Yaakov a répondu comme Yaakov. Il a répondu, c'est Hachem qui a fait que, Yitzhak, il a dit, mais ça, il va jamais parler, il parle jamais comme ça. Et comme vous vous souvenez, ce compris ça, il est complètement effondré et qu'il y a des malachim qui le tiennent, chacun le tient de son côté pour qu'il arrive à tenir debout devant son père. Il tient plus, il est effondré. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? De présenter ça, que c'est ton frère est venu par la ruse. Si tu lis, il est revenu par la ruse, par la ruse de ta mère. Ouais. Mais bon, c'est, en tout cas, on peut pas dire que c'est parce qu'il a étudié la Torah. Ou bien, la ruse, c'est quoi? Il a étudié la Torah, donc il sait qu'il faut donner du kavod à sa mère. Il est obligé d'oublier à sa mère. Bon, ça, c'est pas bon parce que si on est sur Kibboud Av V'Em, et ça avait bien meilleur que Yaakov. Alors, je ne sais pas, en vérité, mais je n'ai pas réussi à comprendre exactement ce midrash. Je dirais que c'est presque un contresens. Si quelqu'un a une idée, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout lui qui est le... Il n'est pas... Il n'a pas mis en œuvre de la ruse. Alors, s'il faut absolument se retomber sur ses pieds, alors je dirais comme ça. En réalité, c'est vrai que Yaakov s'est fait passer pour Esav. Mais quand Yitzhak a convoqué Esav, Il lui a dit, tu vas aller, je veux te bénir et pour ça, je veux que tu m'apportes à manger, du gibier, etc. Là-bas, c'est marqué que Esav va convoquer Esav Beno HaGadol, son fils le grand. Et quand Rivka raconte à Esav qu'elle sait que Yaakov a convoqué Esav son. Elle le dit aussi le grand. Ils ne disent pas l'aîné. Alors, est-ce que c'est parce que la Torah ne veut pas dire un mensonge, puisque depuis la mort d'Abraham, au moment où Yaakov a fabriqué faisait ses lentilles là, depuis ce moment-là, Esav n'est plus l'aîné, formellement, mais il est toujours le grand, quoi, il est. Mais grand, c'est pas un statut grand. L'aîné, c'est un statut. Grand, c'est il est le premier, ok, d'accord. Ça lui donne pas de la halakha, elle est c'est le bechor qui a la double part, c'est pas le grand. On n'utilise pas le mot grand. Ça. Alors peut-être c'est pour ça que la Torah elle n'utilise pas le mot l'aîné, mais surtout. Si on entend ça comme ça, alors on pourrait dire que c'est difficile d'imaginer que ces brachot arrivent chez Yaakov par quelque chose qui est complètement mensonger. Mais si on considère que la raison pour laquelle Yaakov Yitzhak a donné cette bracha, voulait donner cette bracha à Esav. C'est parce qu'il était l'aîné, en vérité. Ce que pensait effectivement Yitzhak. Alors, comme il était en train de se tromper, et qu'en vérité, le vrai aîné, c'était Yaakov, ça veut dire que quand Yaakov se fait passer pour Esav, c'est pas complètement un mensonge. Dans la mesure où Essav, c'est le nom de l'aîné. Donc, Essav, c'est parce que Yitzhak pense qu'il est l'aîné. Mais si c'est comme ça, alors il aurait pu donner, si il avait eu l'information, peut-être qu'il aurait donné le chatrila, la bracha à Yaakov en disant, c'est toi l'aîné, donc c'est à toi que je donne cette bénédiction. Alors, ce n'est pas une très bonne explication dans la mesure où jusqu'à présent on avait expliqué que la bracha, elle est complètement matérielle. Tout ce texte est complètement matériel. Et pourquoi est-ce que il est donné à Esav? Parce que dans l'esprit d'Yitzhak, Yitzhak pensait que la chaîne Abraham, Yitzhak, et le troisième, ben, ce sera Esav et Yaakov. Ce sera les jumeaux, ensemble. Et comme ils ont des qualités différentes, ben, ils vont se répartir le travail. Esav va être sur le terrain, il va être celui qui va faire connaître la Torah, et Yaakov va étudier la Torah, il va développer la Torah. Ils vont faire ça ensemble. Ce qui fait que la bracha qu'il a donnée à Essav, c'était pas une bracha pour Essav tout seul. C'est une bracha qu'il donne à Essav dans la mesure où il pense que Essav va entretenir le duo, les jumeaux. C'est-à-dire, il va assurer l'intendance pour le couple Yaakov-Essav. Et donc, c'est pas complètement pour, c'est pas uniquement pour Essav, c'est à Essav en tant que gestionnaire du matériel. Mais d'un autre côté, on peut pas dire qu'il pouvait pas donner ça à Yaakov, puisque c'est pas Yaakov qui allait le gérer. Mais maintenant, quand il va comprendre, quand Yitzhak a compris qu'il s'était trompé et que c'est Min HaShamayim que les choses sont arrivées chez Yaakov, et que lui dit, Ok, alors je valide cette bénédiction que je lui ai donnée, qui bien sûr ne valait rien du tout. La bracha que Yaakov a reçue d'Yitzhak au moment où il la reçoit, elle vaut rien. C'est une bracha qui ne lui était pas destinée. Donc elle ne vaut vraiment rien. C'est une bracha qui est seulement validée. Elle est validée a posteriori, c'est-à-dire rétroactivement, disons, elle est validée par Yitzhak qui dit Gambaruch yé. Bon, ça veut dire qu'il lui donne cette bracha. Maintenant, je te la donne, cette bracha. Jusque-là, tu l'avais, mais tu ne la méritais pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand Yaakov a reçu cette bénédiction en temps réel, elle ne vaut rien pour lui, mais en tout cas, en faisant cela, il a empêché qu'elle arrive chez Ésaü. Or, le danger, c'était que cette bracha arrive chez Ésaü et qu'Ésaü la prenne pour lui seul, et du coup, Yaakov n'aurait rien eu, rien du tout. Bon, parce que comme on a vu, quand Yitzhak dit « j'ai mangé de tout », ça veut dire en réalité, la bracha que je l'ai donnée après avoir mangé de tout, que les deux significations qu'on avait vues, mais donc il lui a tout donné. Toute la matérialité a été entièrement donnée à Yaakov. Et donc ça veut dire que Yaakov désormais doit se débrouiller tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire le travail pour lui. Et alors, le point suivant, c'est Ésaü qui il est en train de réécrire l'histoire. Parce qu'il dit, Achi kara shmo Yaakov, on l'a appelé Yaakov, pas pour rien. Et il dit, bon, il m'a roulé, il m'a doublé. C'est la deuxième fois qu'il me trompe. Pourquoi? Parce qu'il dit, je me suis tu quand il a pris mon droit d'aînesse. Et maintenant, il me ravit la bénédiction. C'est incroyable. Il est en train de réécrire l'histoire. Jacob ne lui a jamais pris le droit d'aînesse. Et ça va demander des lentilles. Et Yaakov lui a dit, je te donne les lentilles. C'est le prix que je paye pour acheter le droit d'aînesse. Que nous ne comprenions pas comment on peut acheter ou vendre un droit d'aînesse, c'est notre problème, en fait. Puis oui, un droit d'aînesse, ça ne peut pas se vendre. C'est où on est né le premier, ou on n'est pas né le premier. Donc, mais ça veut dire que, à partir du moment où c'est devenu un statut juridique, si vous voulez, c'est ce statut-là qu'il a acheté. Mais il l'a acheté, il ne l'a pas pris. Et même quand on regarde le récit qui est fait dans Parchat Toldot, de la vente, on voit très bien que Vaïvez, Esav et Aprora. Esav, il a dit, mais moi, j'en ai rien à faire de la Bechora, du droit d'aînesse, j'en ai rien à faire. Tout ce que Yaakov lui a expliqué, comme tout ce que ça allait impliquer le risque qu'il y a, effectivement, si on ne fait pas les choses comme elles doivent être faites, on peut y laisser sa peau. Il dit, moi, je vis suffisamment dangereusement, j'ai pas besoin de m'inventer encore des situations dangereuses. Mais il est en train de réécrire, il est en train de dire, il m'a pris. En fait, comme on l'avait déjà dit, le mot Bechora et le mot Bracha s'écrivent avec les mêmes lettres, simplement dans un ordre différent. Donc, en fait, la bénédiction et la Bechora, c'est la même chose. C'est deux réalisations, deux actualisations, deux réalisations différentes de la même chose. Donc, premièrement, il n'y a pas deux choses. Et que d'une certaine manière, à partir du moment où il a donné la Bechora, où il a vendu, il a vendu cette Bechora à Yaakov, ben il lui a aussi vendu, en vérité, la Bracha. Ça, comme on a essayé d'expliquer. Et il dit à son père, il dit comment c'est possible, je veux dire, il lui dit, il dit à son père, Allô, Atzaltali Bracha, c'est-à-dire Mina Nitzolet, c'est-à-dire, est-ce que tu ne m'as pas gardé, est-ce que tu n'as pas sauvé pour moi une bénédiction? Aucune n'a-t-elle réchappé? Il y a toujours des jeux de mots. Bien sûr que la question, elle ne commence même pas, puisque son père n'a pas pu lui réserver une bénédiction pour lui, puisqu'il était en train de tout lui donner à lui. Alors, Yitzhak a répondu à. Il a répondu à Esav. Hen, voilà, c'est vrai. Vois donc. J'en ai fait ton maître. Gvir, ça veut dire. C'est le maître avec un terme qui a la racine de Gibor, la force, le fort. Il est ton maître. Et Rav Brachia dit, les mots, vois, j'en ai fait ton maître, dans la longue bracha que Yitzhak a donné, qui est arrivé chez Yaakov alors qu'il voulait la donner à Esav. Vois, j'en ai fait ton maître. En réalité, c'est dans l'ordre, c'est la septième chose qui est mentionnée dans le texte. On appelle ça la septième bénédiction. Et pourquoi est-ce que c'est celle-là que Yitzhak, quand il parle à Esav, mentionne en premier, alors qu'elle est loin dans la liste des bénédictions qu'il a effectivement données. On lui dit, voilà. Ce qu'il voulait dire, dit Rabrahia, j'en ai fait ton roi. Et tes bénédictions sont à lui. Elles sont à lui, c'est clair. L'esclave et ses biens sont à son maître. Quand j'en ai fait ton maître, tu lui appartiens, tu es quasiment son esclave. Et tout ce que tu as lui appartient. Et j'ai fait de tous les frères de Yaakov, j'ai fait de tous ses frères ses esclaves. Et je l'ai, il traduit, je l'ai gratifié de la moisson, c'est-à-dire du blé, quoi, et de la vendange et du vin. Donc je lui ai donné ce qui dans la Torah est l'essentiel, quoi. Le pain et le vin, quelque part. Il a fait de tous ses frères ses esclaves. Bah, très bien, c'est quoi tous ses frères? Qui sont tous ses frères? Yaakov, il a un seul frère, c'est lui. Mais ça veut dire, toi, Esav, et tous tes enfants, etc., tout ce qui est à son frère, et tout ça, en fait, vous êtes ses esclaves. Mais pour toi, cependant, il y a quelque chose pour toi. Pour toi, il reste du pain cuit. Alors, dans les notes, dans la traduction, ils disent que le éphor, qui veut dire qu'ils ont traduit par cependant, éphor, ça ressemble à afouï. Afouï, ça veut dire boulanger. C'est cuire quand cuire s'applique au pain. C'est-à-dire, quant à toi, soumis à ton frère, tu mangeras le pain qu'il aura cuit pour toi. C'est toujours des jeux de mots. Et alors, Rabbi Yochanan dit, en fait, il lui a dit, Lecha, et on peut lire, Lech, bon, c'est-à-dire va-t'en. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire laisse-moi. Laisse-moi, ne m'embête pas. En fait, le four de Yaakov va cuire où que Yaakov aille, son four va toujours cuire ce pain, toujours boulanger. C'est-à-dire, il va toujours cuire, va cuire ses ennemis. C'est Rabbi Yochanan. Et celui qui discute toujours avec son beau-frère, Reish Lakish, il dit, laisse-moi, car la colère et la rage lui sont échues. C'est-à-dire, ils ont traduit la vengeance. Il va toujours prendre, tu vas pouvoir lui faire des choses, mais il y aura une vengeance permanente. Il y aura toujours de la vengeance. C'est assez étrange comme drachot. Alors, on va lire encore Rav Simlai. Certains disent que Rav Simlai parle ici au nom de Rabbi Abaou. Akadosh Baruch Hu lui dit, il dit à Esav, c'est ainsi que tu lui dis, pour toi cependant, que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai tout donné. J'ai plus, je peux rien faire pour toi. Alors on dit c'est Yitzhak qui a répliqué qu'il trouve grâce. Akadosh Baruch Hu dit c'est un scélérat, c'est un rachat. Yitzhak dit il n'a pas appris la justice, n'a-t-il pas honoré ses parents? Quand je vous dis, il se livre au mal dans le pays de droiture. Le jour viendra où il portera la main sur le Beth Amikdash. Yitzhak dit, s'il doit en être ainsi, comble-le dans ce monde afin qu'il ne voie pas la majesté d'Hachem dans le monde à venir, dans l'avenir. C'est pas très clair ce dialogue. En tout cas, la façon dont ils l'ont rendu ici. Dans le texte, si. On a le. Il lui a dit, j'ai fait de lui un roi au-dessus de toi. Et tes bénédictions, elles lui appartiennent. Dans la mesure où Avda Deman, Nirse Deman, le Eved, l'esclave, ce qu'il possède, tout ce qu'il possède, appartient à qui? Ça appartient bien sûr à son maître. L'esclave, Kolma dilé, le marais. Tout ce qui est à lui, enfin, tout ce qu'a l'esclave, appartient à son maître. Et donc, ça veut dire, il possède tout parce que j'ai donné le statut d'esclave à tous ses frères. Le reste du monde est quasiment esclave. Et si ils savent, ça veut dire le reste du monde est quasiment esclave de Yaakov. Ou lecha, et ici c'est écrit lecha avec un hé à la fin. Mais efo. Ils ont traduit toujours par cependant. Mais faux, ça veut dire ou, d'une certaine manière, ou, bon, c'est aussi, c'est une interjection en quelque sorte. Béram, lecha pitra afouya. Toi, ton pain, il est déjà cuit. Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Rabbi Yochanan dit, Eref Mimeni, va-t'en. Pour Nita, pour un Nito, pardon, Afuya Lecha, B'chol Makom. Donc il dit, va-t'en, parce que, effectivement, ce que Yaakov lui dit, bon, le four de Yaakov, c'est-à-dire, c'est déjà cuit pour toi. Où que Yaakov aille, ton pain est cuit à toi. Rech Lakish dit, ça commence comme ce qu'a dit son maître Rabbi Yochanan. Erev Mimeni, va-t'en. She'af vechema mesourin lo. La colère, en fait, je dis la colère et la rage la colère et la rage et la rage lui appartiennent en quelque sorte. Et là, on ramène ce Rav Samlaï au nom de Rabbi Abaou. Alors, Baruch Hu lui a dit, Kachaita Omer, Ulecha Efo Ma Seli, béni, est-ce que Hachem dit à Yitzhak, c'est comme ça que tu parles à ton fils? Tu lui dis, va-t'en, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, Yitzhak a répondu, mais, Yuchan, ok, qui trouve grâce. Donc, Essav, Yitzhak dit, tout ce qu'il peut faire, c'est trouver grâce aux yeux d'Hachem. C'est tout. Il a mal fait. Amarlo Rachaou, il lui a dit, c'est un rachat, c'est un mauvais. Amarlo Balamad Sedek. Est-ce qu'il n'a pas appris la justice? L'okibed et Torah, est-ce que il n'a pas donné du kavod? On dit de Essav qu'il était le grand maître en kiboudav. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Il lui a dit, Be'eretz nechochot yavel. Donc il amène un passouk. Toujours c'est des psukim du Navi, Yeshaya. Il dit, fais le mal dans le pays. Dans le pays de justice, en fait, il fait le mal. C'est-à-dire, il va finir par détruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire ses descendants, les Romains vont détruire le Beth Amikdash. Il lui a dit, Imken, Ashpalo Shalva Baolamazé. Ah, si c'est comme ça, alors le bien qu'il a fait, le Kiboudav, etc., paye-le lui dans ce monde-ci. Ou balirait Geout Hachem de telle sorte qu'il ne voit pas la grandeur d'Hachem, l'a-t-il la vaut dans le monde à venir? Il y a un dialogue où Hachem reproche à Yitzhak d'être trop dur à son fils, par rapport à son fils. Finalement, Yitzhak va sortir le dernier argument. Il va détruire le Beth Amikdash. Alors finalement, Hachem dit, OK, c'est Yitzhak qui dit ça. Continue. Et ben dans ce cas-là, il faut lui. Comme Hachem paye toujours pour toutes les mitzvot qui ont été faites, et lui, il a fait des mitzvot. Les mitzvot, normalement, elles se payent dans le monde à venir. Si vous voulez, on paye avec une monnaie qui est éternelle. Alors, paye-le dans ce monde-ci avec une monnaie qui est limitée. de telle sorte qu'il n'ait aucune part, qu'il ne reçoit rien du tout dans l'amabat. Donc ça, c'est ce dialogue, en fait, c'est entre Rabbi Yochanan Rish Lakish et finalement Rabbi Samlaï, au nom de Rabbi Abaou. Alors c'est intéressant parce que dans ce dialogue, on a l'impression que les positions changent. C'est-à-dire que comme Hachem commence par reprocher à Yitzhak de parler si méchamment à son fils. Et Yitzhak dit, moi je peux pas dire quelque chose de bien, il faut qu'il trouve grâce aux yeux d'Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem qui peut lui faire grâce. Alors du coup, Hachem dit, mais c'est un rachat, je peux pas lui faire grâce. Alors Yitzhak dit, mais bien sûr, il y a des choses, il a appris la justice, il a honoré ses parents. Alors Hachem dit, mais il est en Eretz Israël, dans le pays de la droiture, et il fait le mal. Et il va même un jour, il va détruire le Beth Amikdash. Alors Yitzhak dit, OK, dans ce cas-là, si ça doit être comme ça, alors donne-lui tout ce à quoi il a droit dans ce monde-ci pour qu'il n'ait rien dans le monde à venir. Donc La grande histoire là, enfin, c'est cette histoire du pain. Alors bien sûr, c'est construit sur un jeu de mots, mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand il lui dit, finalement, est-ce que c'est si mal que je lui ai tout donné? Mais c'est quand, si lui, il a tout, il est responsable du monde. Donc en réalité, il va cuire ton pain, quoi. Tu vas avoir du pain que toi, tu peux pas cuire parce que c'est pas à toi. Mais lui, il va pas profiter de tout ce que je lui ai donné uniquement pour lui. Il va faire le travail pour toi aussi. Donc, est-ce que c'est si terrible? Finalement, ton pain sera cuit. En d'autres termes, tu manqueras de rien. Parce que, en quelque sorte, Yitzhak, il n'est pas comme toi. Toi, si je t'avais donné, Yitzhak a compris, c'est ce que Rivka pensait, si je t'avais donné ce que je lui ai donné, tu aurais tout gardé pour toi. Mais lui, il n'est pas comme toi. Lui, il sait très bien que ce que je lui donne, c'est pour qu'il joue un rôle à l'échelle du monde, qu'il est responsable du monde entier. Donc il va cuire ton pain, il va te donner, tu auras à manger, il y aura du pain. Donc ça veut dire tu auras toujours à manger. Tu manqueras de rien parce qu'il se considère comme responsable du monde. Ce que toi, tu ne te considérais pas comme étant responsable du monde. Et c'est pour ça que c'était important que ce ne soit pas toi qui reçoive cette bénédiction. Alors quand Hachem dit, mais finalement, il va détruire le Beth Amikdash, c'est-à-dire il va détruire la résidence d'Hachem, donc il va détruire la possibilité, enfin, la facilitation que représente le Beth Amikdash pour que les gens reconnaissent Hachem, en fait. Le Beth Amikdash, il sert à ça, il sert de rappel, il sert à nous familiariser avec Hachem, si on peut parler comme ça. Et lui, il va le détruire. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas qu'il ait accès au monde où le Atid Lavo, qui est le monde dans lequel tout le monde reconnaît qu'Hachem est le roi. Puisque lui, il fait ce qu'il peut pour nous empêcher de reconnaître Hachem comme le roi. Ok, alors lui, il ne doit pas avoir accès du tout à ce monde-là. Mais il y a un problème d'injustice si on ne lui donne pas le salaire qu'il mérite pour les mitzvot et pour les choses qu'il a bien faites, parce que tout le monde fait les mitzvot, tout le monde, même elles sont corps défendant, elles ne sont pas bien faites, etc., mais elles sont faites. Et donc il y a une récompense, il y a un salaire, il faut leur donner ce salaire. Alors donne-le dans ce monde-ci, puisque lui il pense que dans ce monde-ci, voilà, je vais faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas Hachem. En fait. Donne-lui. Il faut lui donner, alors donne dans ce monde-ci. Aucun accès au monde de la reconnaissance. Alors à la question de Essav, est-ce que y a rien, tu peux rien du tout me donner? Alors Bayan Yitzhak Aviv, Yitzhak son père. Vous voyez ici on dit Yitzhak Aviv, c'était pas nécessaire de dire qu'il est son père. Ça fait un bout de temps qu'on sait que Yitzhak est le père de Essav. Vayomer Elav, Hine, il lui a dit, Mishmane Haaretz, voilà, j'ai les terres grasses, Moshavecha, tu vas résider dans les terres grasses. Et le Midrash dit, c'est quoi les terres grasses? C'est l'Italie. Mais Talashamaim Meal. Et de la rosée du ciel d'en haut. Là, c'est Beth Gouvrine. C'est un endroit en Eretz Israël. Et d'abord, il y a une autre lecture. Sur Veine Mishmane Aretz, c'est-à-dire Minshmaneya de Ara, en fait, il veut dire par le. Ils ont traduit comme ça, les gens gras de la terre. C'est-à-dire les riches. Et Tala, c'est mi Tala Shamaim. Alors, on parle ici du rapport avec les avec les riches. Et le Midrash dit, Antonin, donnez-nous ce qu'on dit, il a fait dire à Rabbi. Hazal considère que Rabbi est Antoninus, qui est un empereur, quelqu'un de très important chez les Romains, était ami. Il y avait une amitié personnelle très forte entre Rabbi, c'est-à-dire Rabbeinu, celui qui a rédigé les Mishnayot, qui a arrangé les Mishnayot, et un personnage très important de Rome. Alors Antonin a dit à Rabbi, nos caisses sont vides. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les remplir? Je dis, voilà, Rome est fauchée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il communiquait avec un messager. Rabbi il a fait signe au messager de le suivre dans un verger. Et Rabbi a arraché les tiges hautes. Et il a planté de jeunes pousses à leur place. Alors le messager a dit à Rabbi, s'il te plaît, écris-moi ce que je dois dire à Antonin. Alors, Rabbi lui a dit, non. On n'a pas besoin d'écrire. Et le messager est retourné chez Antonin. Et Antonin lui a dit, est-ce que tu as la lettre que Rabbi m'a envoyée comme réponse? Alors, il lui a dit, mais il m'a rien donné. Alors, il dit, alors, est-ce qu'il t'a donné un message oral? Non, rien du tout. Mais il m'a conduit au verger, il a arraché des grandes tiges et il a planté de jeunes pousses à leur place. Alors Antoninus a compris le message. Il a démis des responsables, des anciens, des vieux. Et il en a nommé des nouveaux. Et les caisses se sont de nouveau remplis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rémi lui a dit, vous êtes assez riche. C'est qu'il y a des gens qui pique dans la caisse. Les préfets anciens, ils ont piqué dans la caisse. Nomme des nouveaux, qui en tout cas au début ne piqueront pas dans la caisse, parce qu'ils n'auront pas encore les contacts, etc. Et les caisses vont se remplir. C'est-à-dire, il ne lui a pas dit, on va faire un miracle, il va pleuvoir des pièces d'or ou des pièces d'argent ou quoi que ce soit. Il lui a dit, il n'y a rien besoin de faire, c'est tout, il faut enlever la corruption. Il faut enlever les voleurs. Les voleurs sont au pouvoir, enlève-les. Le pouvoir, il corrompt obligatoirement. Donc c'est important que les gens restent pas trop longtemps au pouvoir. Ça ressemble un peu à la situation au temps du roi David. Les Bnei Israël sont à un moment, ils sont venus chez David, ils ont dit, il faut que tu fasses, il faut que tu nous nourrisses, on est fauchés complètement, on n'a rien. Alors, David a dit, mais allez faire la guerre. Alors, on explique que, en fait, les Philistins, ils faisaient des razzias. Donc, les Bnei Israël avaient des récoltes. Quand ils avaient récolté, les Philistins faisaient une razzia, ils fauchaient toutes les récoltes, et donc les Bnei Israël crevaient de faim. Il a dit, ben, faites la guerre contre les Philistins et récupérez ce qu'ils vous ont pris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que la nature ne produit pas suffisamment. C'est qu'il y a des gens qui affament les autres. Il y en a qui prennent pour eux ce qui ne leur appartient pas. Et du coup, ceux auxquels on a pris les choses, bien, ils sont lésés et ils crèvent de faim. De nouveau, la même situation. Ce sont les hommes. C'est les hommes qui prennent. Ils prennent ce qui leur appartient pas. Alors, ce qu'on peut se demander, évidemment, c'est pourquoi est-ce que Rebbi préférait ce message par le geste qu'il a fait, qui serait rapporté à Antoninus, c'est que Antoninus va comprendre, plutôt que d'écrire deux mots sur un support quelconque, qui serait transporté, qui serait amené chez une lettre, quoi, ou un message oral. Et donc, il a utilisé ni l'écrit, ni l'oral, mais il a fait quelque chose et il a compté sur le fait que il n'a pas dit, regarde ce que je fais, tu le raconteras ça. Il a fait quelque chose. Et finalement, le messager, il a donné le message. Et à la limite, on peut dire que le messager, il a transporté un message qu'il n'avait peut-être pas compris du tout. Et donc ça peut être important, parce que le messager, il n'est pas tenté de donner le message à quelqu'un d'autre, éventuellement, il comprend pas, il n'a rien compris. Donc, il faut peut-être que Rebbi comptait sur la proximité qui existait entre Antonin et lui, pour qu'Antonin comprenne le message. Parce que nous, on le lit, est-ce qu'on l'aurait compris? Non. Il n'a même pas pris la peine de dire au messager, tu vas lui raconter ce que tu m'as vu faire. Et donc, il y a une inutilité ou une méfiance par rapport au message écrit ou oral. Et alors la question qu'on pose, évidemment, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'Itsrak a dit? Ta résidence sera parmi les terres grasses, la déesse Av. Ta résidence, ce sera l'Italie. Oh, c'est un beau pays, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que les caisses sont vides et que ils demandent à Rebbi de les remplir? On a vu dans le paragraphe précédent que Yitzhak a dit à Esav, ton pain sera cuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras à manger parce que Yitzhak, parce que Yaakov va te donner à manger. Et il va pas te donner il va te donner du pain déjà cuit. Il pourrait te donner du blé, et de l'eau, et enfin de quoi faire, fabrique-toi des matzot, je veux dire, fais-toi du pain. Non, il va lui donner du pain déjà cuit. Donc il y a un souci. C'est l'esclave, mais on va pas dire à l'esclave, débrouille-toi. On va lui donner du pain cuit. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bnei Israël ont le souci. Et quand les relations sont bonnes entre les Bnei Israël et les Umot HaOlam, alors les Bnei Israël peuvent donner des conseils. Ils sont à l'écoute des besoins des Umot HaOlam et peuvent leur donner des conseils. Et c'est ce qui se passe. Antonin, il vient prendre conseil chez Rebbi. Il y a des situations où, dans la discussion entre Antonin et Rebbi, c'est Antonin qui a plus raison même. Vous connaissez la grande discussion entre Antonin et Rebbi. Ils ont discuté pour savoir à partir de quand est-ce que le Yetzer Hara est dans l'être humain, dans le. Et Rebbi avait pensé que le Yetzer Hara, il est là dès la conception. Et c'est là qu'Antonin lui a dit, pas du tout. Si le Yetzer Hara était là, tout de suite, l'enfant, il défoncerait le ventre de sa mère et il sortirait. Donc le Yetzer Hara, il ne peut être là qu'après que le bébé soit sorti du ventre de sa mère. Sinon, il respecterait pas sa mère. Quitte à mourir, à en mourir, mais il va pas se laisser confiner dans un. Là, c'est Rebbi qui a, c'est, c'était Antonin qui avait raison. Ici, on sait pas savoir raison ou pas. C'est effectivement, ici, on nous dit, et c'est ce qu'il lui a dit, tu vas habiter dans les terres grasses. Ça veut dire qu'en réalité, si les terres sont grasses, normalement, les caisses devraient pas être vides. Il y a à manger. Comment se fait-il qu'elles sont vides? Alors, eh bien, dit, ce sont les hommes. C'est les hommes. Il y a des gens qui piquent dans la caisse. Vire les préfets, remplace-les, et tu verras les caisses, elles vont. C'est pas qu'il lui a donné une bracha pour que les terres soient encore plus grasses ou qu'elles produisent plus, pas du tout. Vous avez assez, il y a assez. Les terres sont grasses. En d'autres termes, il dit à. C'est intéressant parce que l'Italie, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus riche comme terre. De la terre d'Israël. La terre d'Israël n'est pas une terre spécialement riche. C'est une terre qui a d'autres qualités. Mais les terres grasses, c'est plutôt l'Italie. Et c'est ça que Yitzhak dit à Esav. Il lui dit, tu n'auras pas à te tu n'auras pas à te soucier. J'ai donné la bracha matérielle à ton frère, mais il va s'occuper de toi, lui. Curieusement, Yitzhak dit à Esav, lui dit, Al kharbecha, tu vas vivre grâce à ton épée. C'est quoi? Il lui dit, il faudra que tu vives pour son épée, ça veut dire que tu vas devoir faire la guerre. C'est presque contradictoire avec ce qu'on vient de voir. Alors regardez, Rabbi Lévi, il lui dit, rentre ton épée et tu vivras. C'est pas sur ton épée, mais al, ça veut dire entrer. Entrer, rentrer. C'est de l'araméen. Et donc, toi, tu as tendance à régler les problèmes avec la violence, par la violence. Donc, il va dans les champs, il tue, il viole, etc. Il rentre ton épée. Arrête d'utiliser la violence. Et tu vivras. C'est vrai que tu vas servir ton frère. Et là, de nouveau, toute la dracha, elle est presque à l'envers. Tu vas servir ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu vas le servir s'il en est digne. Sinon, tu le tueras. C'est vrai que tu dois le servir, mais il faut que il soit à la hauteur d'être ton maître. Il est ton maître. Mais à lui de gérer. C'est, à la limite, ici, cette maîtrise, comme on dit, maîtrise oblige. Comme on dit, noblesse oblige. Tu as un rôle à jouer. S'il ne joue pas son rôle comme il le doit, alors tu peux le pendre, en fait. C'est le mot ta'avod, qui veut dire tu serviras, la chaîne avoda avec aïn. Mais si le aïn, vous ne le lisez pas comme un aïn, mais comme un aleph, ta'abed, ça veut dire tu le perdras, tu le tueras. C'est intéressant de voir que modulo, la prononciation de Aïn et Aleph, qui sont différentes, mais si, comme les Ashkenazim qui prononcent le Aïn comme un Aleph, on n'entend pas la différence entre servir et perdre, au sens de détruire, quoi. Comme s'il y avait, en vérité, deux. C'est très proche. servir ou détruire. Parce que c'est vrai que quand on sert quelqu'un, même si on le sert, même si on travaille pour lui, mais du coup, il est quand même un peu dépendant de celui qui fait le travail. Donc celui qui fait le travail, il peut, d'une certaine manière, le détruire, d'une certaine façon. Parce que quand quelqu'un est en charge, c'est lui qui fait tout le travail, il finit par avoir la haute main sur les affaires, sur la maison. Quand vous regardez Yosef, il est le maître, il est l'esclave de Potiphar ou des autres après. Mais comme il dit lui-même, je fais ce que je veux dans cette maison. Et c'est Yosef qui dit à Madame Potiphar, il dit, moi je pourrais te prendre toi aussi, mais je veux pas. Mais bon, quasiment, c'est tellement ouvert pour moi ici que je peux faire ce que je veux, en réalité. Donc il y a une proximité dans le un certain degré de service qui est aussi une fragilisation de celui qu'on sert. On a trop de pouvoir quelque part sur celui-là.
Rav,
Oui.
est-ce qu'on n'a pas ici quand même un Midrash qui semble prendre une position, d'ailleurs, bon, que je trouve sur le plan personnel assez pessimiste, puisqu'en fait l'histoire nous apprend que, et peut-être déjà à l'époque de la rédaction du Midrash, que Essav, en définitive, ne fait que nous détruire. Alors, ça voudrait dire que ici, on n'est jamais à la hauteur.
Mais Essav, nous sommes dans le galout d'Essav parce qu'on n'était pas à la hauteur. On n'est pas arrivé dans le galout d'Essav parce qu'on était à la hauteur.
Oui, mais on a eu 2000 ans pour changer la donne.
Oui, le problème, c'est qu'on n'a probablement pas changé suffisamment. Vous avez raison, ça a l'air pessimiste, mais est-ce qu'on a vraiment changé la donne, comme vous dites? Si le problème, c'était cette fameuse sinat chinam, cette haine gratuite, est-ce qu'on voit ici un amour gratuit entre les Bnei Israël? Pour l'instant, c'est pas très évident. Vous avez raison, c'est pessimiste. C'est sûr que ce que Ravuna dit ici, que s'il en est digne, tu le serviras, sinon tu le perdras. Malheureusement, c'est des choses qui sont arrivées et qui continuent d'arriver aussi. Vous avez raison, on n'est pas encore arrivé, quoi. La question qu'on peut poser, c'est est-ce que on a le sentiment de qu'on a fait des progrès, quoi. C'est difficile parce que on ne sait pas qui écrit l'histoire.
Et où est-ce qu'on pourrait,
Voilà. Oui.
voir, où est-ce qu'on pourrait, dans ces cas-là, voir une progression? On prend l'époque du Midrash, il y a 2000 ans, allez. Depuis 2000 ans, les événements qui nous parlent depuis 2000 ans. La situation du peuple juif sur ces 2000 ans, où est-ce qu'on pourrait voir une progression? Je pense bien sûr à Israël.
Oui, on s'approche là de Pourim. Pourim est ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps, c'est très proche. Donc à Pourim, on fait toute une fête de Pourim, mais on a tendance à oublier un peu ce qu'était Pourim. Pourim, c'est une fête de reconnaissance et de joie, etc. Mais c'est une joie consécutive à la sortie d'une solution finale. On n'a pas toujours dans la tête que c'est ça. Pourim, c'est sortir de. C'est comme si quelqu'un, comme on avait dit dans le jour précédent ou avant, c'est comme si quelqu'un avait su, imaginez, en 33, quelqu'un savait tout ce qui allait se passer. Il a une information. C'était la situation dans laquelle était Mordechai. D'accord? Il apprend que toutes les lettres sont déjà parties et arrivées, et qu'il est prévu que le 13 Adar, on va massacrer hommes, femmes et enfants, tous les Juifs, le même jour, de l'Empire perse. Et pourquoi on est sorti de. Ben pourquoi? Une des raisons pour lesquelles on est sorti, visiblement, c'est qu'il y a eu une forme d'unité, en tout cas des gens de Shushan et de la région, quoi. Tout le monde a. Les gens ont jeûné ensemble, ils ont prié ensemble. Et ça a marché. Il y a eu zéro mort. On a été quitte pour la peur. C'est une peur affreuse, mais on a été quitte pour la peur. Comme quelqu'un qui est quitte parce que il a vécu quelque chose d'insupportable, mais il l'a vécu en rêve. Allez, il s'en réveille. Il sort de ce cauchemar. Celle qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps, de solution finale, elle n'a pas vraiment été caractérisée par une solidarité tous azimuts. Il y a eu des gens extraordinaires, il y a eu de l'entraide, il y a eu de l'aide, des gens qui ont fait des efforts gigantesques. Mais il y a eu aussi des choses dont on ne peut pas être vraiment fier. Et encore, on ne dit pas tout. Je sais pas, il y a probablement, par exemple, jamais eu autant de gens qui étudient la Torah. Jamais. À aucun moment de l'histoire juive.